Les aventures de Huck Finn par Mark Twain. Chapitre 1er. Huck Finn se présente au lecteur. L'ami de Tom, c'est moi, Huckleberry Finn. Si vous n'avez pas lu les aventures de Tom Sawyer, vous ne me connaissez pas. Cela ne fait rien. Nous aurons vite lié connaissance. Monsieur Mark Twain vous a raconté l'histoire de Tom, et il y a mis un peu du sien, même en parlant de moi. Cela ne fait rien non plus, puisqu'on m'assure qu'il n'a ennuyé personne. La tante Polly, Mary Sawyer et la veuve Douglas ne disaient jamais que la vérité, et elles n'étaient pas toujours amusantes. Je parle de la tante de Tom, de sa cousine, et de la veuve qui m'avait adopté. Au fond, sauf quelques enjolivements, M. Mark Twain a rapporté les faits tels qu'ils se sont passés. Pour ma part, je n'ai pas assez d'esprit pour inventer. Je raconterai donc simplement la suite de mes aventures. Or, voici comment finit le livre de M. Mark Twain. Tom et moi, nous avions découvert un trésor caché dans une caverne et nous étions devenus riches. $6,000 chacun, une jolie fortune pour des orphelins de 12 à 13 ans. Tom avait sa tante qui ne le laissait manquer de rien. Si, elle le tarabustait un peu. J'étais moins orphelin et plus libre que lui. Mon père vivait encore, mais il avait disparu depuis longtemps. Je ne tenais pas à le voir revenir, parce qu'il me battait quand il avait bu, c'est-à-dire tous les jours. J'aurais mieux aimé n'avoir qu'une tante. Du reste, on se montrait bon pour moi, et je ne me rappelle pas avoir jamais eu trop faim. L'été, je dormais dans un tonneau vide. L'hiver, je couchais dans une grange. Mon genre de vie me convenait. Personne ne s'occupait de moi parce que j'étais pauvre. Je plaignais Tom, qui ne pouvait pas monter en bateau, se baigner ou pêcher à la ligne plus de 2 ou 3 fois par semaine. Par malheur, mon argent vint tout gâter et je me trouvais dans le même cas. L'avocat Thatcher plaça mes $6,000 à intérêt de façon à leur faire apporter $1 par jour. La veuve Douglas, à qui j'avais rendu un grand service, m'adopta, comme je l'ai dit, et déclara qu'elle voulait essayer de me civiliser. J'étais habitué à vivre à ma guise et ça ne m'allait pas du tout de rester enfermé dans une maison, de me lever, de manger, de me coucher à heure fixe. Et puis, mes habits neufs me gênaient. À la fin, je n'y tins plus et je décampais, après avoir repris mes vieilles nippes. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis à l'aise, libre et content. J'avais retrouvé le tonneau où je dormais sans me donner la peine de me déshabiller. Personne ne m'empêchait de flâner dans les bois, de m'allonger sur l'herbe ou au bord de l'eau et de dégringoler le long des berges. Je pouvais fumer sans avoir besoin de me cacher. Une seule chose me tracassait. Les provisions dont mes poches étaient pleines ne dureraient pas toujours, et on remettrait le grappin sur moi si je reparaissais dans les rues. Je n'eus pas le temps de m'inquiéter. Tom me relança au bout du second jour et me gronda plus fort que ne l'avait jamais fait la veuve. « Tu as beau crier après moi, lui dis-je. J'aime mieux vivre comme autrefois, au lieu de me laisser civiliser. »« Vivre comme autrefois ? Allons donc. Aujourd'hui, personne ne te donnera à dîner en échange de ta pêche. Tu crois ? J'en suis sûr. Maintenant que tu es riche, tu ne dois pêcher à la ligne que pour t'amuser. Si tu te présentes avec un beau poisson, on l'acceptera et grand merci. On te permettra peut-être de conduire les chevaux à l'abreuvoir ou de mener paître les vaches. On n'aura pas l'idée de t'offrir une bouchée de pain. On te réclamera plutôt de l'argent, parce qu'on se figurera que cela t'ennuyait de te promener seul. Je ne suis pas fier, je dirais simplement « j'ai faim ». On te rira au nez, et on te demandera ce que sont devenus tes $6,000. Un individu ne peut donc pas faire ce qu'il veut quand il est riche, non, du moins pas avant d'avoir 21 ans. Comme je ne paraissais pas convaincu, Tom trouva un autre moyen pour me décider. Il me raconta que la bande de voleurs dans laquelle il avait promis de m'admettre serait bientôt organisée. Les autres m'avaient déjà accepté pour lieutenant, mais ils ne voudraient plus de moi si je m'obstinais à m'habiller aussi mal et à coucher dans un tonneau. Je retournai donc chez Madame Douglas, qui me reçut à bras ouverts et ne m'adressa pas trop de reproches, de sorte que je fus fâché de lui avoir causé de la peine. Elle me fit endosser mes habits neufs. La vieille histoire recommença. La cloche sonnait pour annoncer le déjeuner, le dîner ou le souper. Que l'on eût faim ou non, on était tenu d'arriver à l'appel et de rester à table jusqu'à ce que le dernier plat eût été servi. Au bout de 10 minutes, j'en avais toujours assez et je ne demandais qu'à m'en aller. Ah ben oui, chez les gens civilisés, les choses ne se passent pas ainsi. pour peu que l'on mange vite, il faut regarder manger les autres, et s'en bâiller encore. J'eus beau me plaindre, la veuve tint bon. « Mon pauvre Huck, me dit-elle, c'est là une affaire d'habitude. Tu apprendras bientôt à demeurer assis, sans te sentir des fourmis dans les jambes. » Elle se trompait joliment. Les fourmis s'acharnaient contre moi avant que le repas fût à moitié fini. Alors la sœur de la veuve, Miss Watson, une vieille fille qui n'était pas méchante au fond, se mettait de la partie. « Huck, ne pose pas les coudes sur la nappe. Huck, tiens-toi droit. » Puis elle me faisait rire en imitant mes bâillements, et les fourmis décampaient pour le moment. Miss Watson avait été maîtresse d'école. C'est sans doute pour cela qu'elle me reprenait à tout propos. Avec elle, pourtant, pas moyen de se fâcher. Ma mère m'avait un peu appris à lire et à écrire. Mais comme mon père refusa plus tard de me laisser aller à l'école, c'était presque à recommencer. Grâce à Miss Watson, je me rattrapais vite. Les leçons s'allongeaient et ne m'ennuyaient plus autant. « Est-ce que j'arriverai jamais à écrire aussi bien que Tom ?» lui demandai-je un jour. « D'ici un mois, tu écriras beaucoup mieux, et tu feras moins de fautes d'orthographe que lui, si tu veux te donner un peu de peine. Je n'ai jamais eu un meilleur élève que toi, Huck. » Pour le coup, je me sentis fier, et je pensais moins au tonneau, que je regrettais cependant parfois. Un beau matin, Tom fut très étonné quand Jim, le nègre de Miss Watson, lui remit une lettre où je l'engageais à venir dîner chez la veuve. Même durant les vacances, la veuve me tint la bride serrée. J'étais bien plus heureux lorsqu'elle ne songeait pas à me civiliser. S'il n'y avait eu que Madame Douglas et sa sœur, la vie que je menais ne m'aurait pas semblé trop dure, malgré les leçons. Avec elles, je ne me sentais plus gêné. Mais elles invitaient souvent du monde à dîner, et elles se moquaient de moi parce que je voulais aller manger dans la cuisine. Sans Tom, je me serais encore sauvé. Je le voyais une ou deux fois par semaine, et nous prenions rendez-vous pour courir les bois le soir, lorsqu'on nous voyait coucher. L'hiver, un bon lit vaut peut-être mieux qu'un tonneau. L'été, c'est une autre histoire. Une nuit, je venais de gagner ma chambre. Je n'étais pas de bonne humeur, car il m'avait fallu demeurer depuis 6 heures en compagnie de gens que je ne connaissais pas et qui s'obstinaient à me faire causer, pas pendant le dîner, par exemple. À table, ils étaient trop occupés pour penser à moi. Plus tard, dans le salon, il ne m'avait pas laissé aussi tranquille. Huck, maintenant que tes moyens te permettent de choisir une profession, n'as-tu pas envie de devenir médecin ? Me demanda un vieux monsieur. Oh non, répliquai-je. Mon père disait toujours que les médecins ne servent qu'à tuer plus vite un malade. Docteur, cela vous apprendra à interroger un gaillard bien portant, s'écria un jeune homme, qui ajouta, en s'adressant à moi, vous préférez sans doute être avocat ? Votre père ne vous a pas prévenu contre les avocats. Si, ils vendraient leur langue au diable. Alors le docteur salua le monsieur qui venait de me parler, et à mon grand étonnement, tout le monde se mit à rire. Il faudra pourtant que tu choisisses un état, Huck, dit la veuve. Tom et moi, nous en avons déjà choisi un. Je parie que vous songez tous deux à redevenir pirates. Plus tard, c'est possible, lorsque nous pourrons acheter un bon navire. Et en attendant, c'est un secret. Là-dessus, chacun se mit à m'accabler de questions, cherchant à me tirer les vers du nez. Les dames, surtout, se montraient curieuses. Je crus qu'elles ne s'en iraient jamais. Voilà pourquoi j'étais si tracassé. Après avoir mis ma chandelle sur la table, je m'assis près de la fenêtre et j'essayais en vain de penser à quelque chose de gai. Le souvenir d'une salière que j'avais renversée à dîner me trottait dans la tête. Cela n'annonçait rien de bon. Tandis que je me reprochais de n'avoir pas jeté une pincée de sel par-dessus mon épaule gauche, j'aperçus une petite araignée qui grimpait le long d'une de mes manches. J'eus la bêtise de lui donner une chiquenaude qui l'envoya au beau milieu de la flamme de la chandelle. Tuer une araignée du soir, fût-ce par hasard, porte malheur, tout le monde le sait. Je me levai, et je tournai 3 fois sur moi-même en faisant le signe de la croix, puis j'attachai une mèche de mes cheveux avec un bout de fil. Ces moyens-là servent à chasser le mauvais sort quand on perd un fer à cheval, que l'on a eu la chance de ramasser. Mais suffisait-il dans le cas actuel? J'en étais rien moins que sûr. Aussi fus-je presque tenté de descendre en tapinois à la cuisine afin de consulter le grand nègre de Miss Watson. Jim était plus à même que personne de me renseigner là-dessus. Tout à coup, je me souvins que Tom Sawyer m'avait prévenu que notre bande de voleurs était presque organisée, et qu'il fallait me tenir sur le qui-vive les derniers jours, ou plutôt les dernières nuits de la semaine. Or, la semaine touchait à sa fin. J'oubliais aussitôt l'araignée, la salière, et j'allumai ma pipe. Rien ne bougeait dans la maison. Je ne risquais pas d'être surpris et grondé par la veuve. Ding, ding, ding. L'horloge de l'église voisine sonna enfin 12 coups, et tout retomba dans le silence. Au bout de quelque temps, j'entendis comme un bruit de branches brisées au-dessous de la croisée. Je me tins coi et j'écoutai. Bientôt un « miaou » discret résonna à peu de distance. C'était le signal convenu. Je répondis « miaou » aussi doucement que possible. Je soufflai la lumière. Je sortis par la fenêtre et me laissant glisser le long du toit d'un hangar, j'eus bien vite rejoint Tom qui m'attendait sous les arbres.